Maintenant, on va parler de troubles d'apprentissage. Évidemment, le milieu de l'éducation est fortement bousculé par la pandémie, par les mesures sanitaires, par l'enseignement à distance. Et on avait envie de faire le point sur l'impact que ça peut avoir sur les jeunes qui vivent avec des difficultés d'apprentissage. Alors pour ça, on parle à Lucille Doiron, directrice de l'Institut des troubles d'apprentissage. Bonjour, madame.
Bonjour, madame.
Vous allez bien?
Très, très bien. Très, très bien. Merci de nous accueillir.
Ben, ça fait plaisir. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Et puis, bon, tout d'abord, en ce moment, il y a une partie des élèves qui sont en classe, mais c'est quand même pas tout à fait la vie scolaire habituelle. Est-ce qu'il y a des impacts des mesures sanitaires, comme par exemple le port du masque, sur les élèves qui ont des troubles d'apprentissage?
Spontanément, je vous dirais que les élèves qui ont des troubles du langage, qui ont énormément besoin de soutien, rend difficile la correction du langage, mettons. Alors, entre autres choses, et puis, bien sûr, tout le contact humain qui est un peu distant. Alors, oui, les enfants, le port du masque a sans doute un effet un petit peu réducteur au niveau de la qualité du service, mais par ailleurs, il faut mesurer. Il faut toujours avoir en tête l'équilibre entre la santé publique et l'éducation.
Tout à fait.
Et y voir une façon de peut-être envisager de travailler autrement. L'enseignant peut utiliser la visière également et son visage est toujours apparent. Alors, et pour la correction du langage assis en classe, actuellement, en tout cas pour les petits encore, le masque n'est pas encore obligatoire. Donc, la rééducation du langage peut se faire, évidemment.
Le fait aussi de ne pas voir son enseignante, surtout si on l'an dernier, à la limite, ça aurait été, on l'a connu le reste de l'année, mais là, ça doit avoir un impact quand même en ce moment. L'idée qu'on ne voit pas le visage de son enseignante tout le temps, pour certaines conditions, est-ce que ça fait une différence?
Oui, oui, absolument, parce que tout le langage non dit est vécu dans le visage très, très souvent. Donc, la mimique, l'expression, autant l'expression de plaisir ou de malaise, etc., il y a certainement des impacts. Mais comme je viens de mentionner, je crois que les enseignants, professionnellement, sont conscients et sont très bien accompagnés pour la plupart avec des conseillers pédagogiques, une direction d'établissement avec du leadership, les collègues autour et des formations qu'ils ont à prendre pour justement ajuster tout leur bagage, tout leur enseignement. C'est quand même, les gens se virent de bord, là. On est tous conscients que le travail du personnel est mis à rude épreuve et je pense qu'il y a de la résilience là-dedans énormément. Et les enfants eux-mêmes sont extrêmement résilients. On observe des choses formidables qui sont en train de se passer. Cela ne minimise pas les difficultés, bien sûr, qui existent là.
Okay. Non, mais on assiste à beaucoup de créativité. J'ai une amie enseignante qui s'est fait faire des macarons avec son visage.
C'est trop.
Parce qu'elle est en classe d'accueil et c'est ça, le langage, tout ça, c'est très important.
Ben oui, en classe d'accueil, l'apprentissage du langage, c'est le rythme de la bouche en lien avec les sons, tu sais.
Oui, tout à fait. Évidemment, il doit y avoir aussi des coupures de service dans tout ce qui est l'aide aux devoirs. Est-ce que les parents sont un petit peu plus laissés à eux-mêmes?
Au niveau de l'aide aux devoirs spécifiquement, je ne pourrais pas m'avancer, mais je sais qu'il y a des organismes d'aide aux devoirs qui doivent prendre le relais. Est-ce que les enfants vont sur place pour l'aide aux devoirs ou ils sont, eux, en télétravail? Par le biais d'une petite caméra, là. Je sais aussi que AlloProf est très, 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 très actif. Et nous-mêmes, à l'Institut des troubles d'apprentissage, nous avons lancé, à l'ouverture de l'année, un réseau d'entraide pour les parents à l'Institut. Alors, on invite tout le monde à aller visiter notre site pour pouvoir rejoindre le réseau d'entraide Parents Québec. Alors, c'est vraiment pour les parents qui ont des enfants en trouble d'apprentissage ou des défis particuliers. Nous avons sur ce réseau d'entraide, on a des capsules pour les parents. On a des cafés rencontres live, là. à chaque semaine pour les parents. Alors, on répond aux questions des parents, puis on organise les cafés rencontres en lien avec les questions les plus souvent soulevées par les parents. Alors, on a une belle affluence. On est très, très fiers de ce réseau-là. Donc, il y a des capsules vidéo, il y a des dossiers thématiques sur le réseau. Il y a une docteure en éducation et en adaptation scolaire, en fait, qui parle aux parents 2 à 3 heures par jour pour répondre correctement à la demande des parents durant cette période de pandémie. Alors, et de difficultés scolaires sûrement très présentes, là, pour s'il y a une éclosion dans la classe et que les parents doivent garder les enfants à la maison, on se retrouve avec une autre réalité. Et là, les parents, ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin de savoir comment faire.
C'est ça. Alors, parce voilà. Qu'il y a les classes où il y a des cas qui se retrouvent en apprentissage à distance. Mm-hmm. Il y a les 4e et 5e secondaires qui le font en alternance.
Ouais.
Et cégep et université aussi est à peu près complètement...
À peu près complètement en ligne. Alors, contrairement à ce qu'on croyait, le taux de rétention des étudiants, donc l'abandon scolaire, est pas à la hauteur du drame qu'on a voulu contrer. Alors, c'est une très bonne nouvelle.
Oui.
Les étudiants du collégial et de l'université maintiennent leur présence à l'école, à l'université et au collège. Et les mesures d'aide existent, évidemment. Et dans chaque établissement, c'est important que les parents le sachent, dans chaque établissement universitaire et collégial, il y a un service d'aide pour les parents. Pour les étudiants.
Pour les étudiants. Okay. Oui, parce qu'on imagine qu'il y a rendu là...
Oui. Non, mais que les parents le sachent, c'est une bonne nouvelle.
Oui, c'est vrai.
Mais que le jeune sache que s'il a des besoins particuliers, il y a de l'aide dans son établissement post-secondaire pour le soutenir. Et la même chose en formation générale pour adultes et en formation professionnelle. Alors, j'en profite aussi pour dire que notre réseau d'aide, le réseau d'entraide parents, on a exactement le même réseau, mais un autre réseau. Là,
celui-là dédié aux jeunes adultes.
Les adultes. Oui. On a pour les adultes et on a pour les parents. Alors, vous êtes bienvenus... aller consulter.
Est-ce qu'il y a des défis particuliers qui sont associés à l'enseignement à distance quand on a des troubles d'apprentissage?
Oui, le temps, la durée d'attention. La durée d'attention doit être un élément pris en considération par l'enseignant. Également, de faire parler, d'avoir une communication interactive avec les étudiants. C'est important pour garder l'attention et de présenter de la théorie, mais visuellement avoir des images, faire en sorte qu'on crée plusieurs sources pour que la mémoire retienne l'information avec plusieurs données. Et c'est sûr que c'est différent assis dans une classe. Mais par ailleurs, si l'enseignant utilise ses stratégies, souvent, l'élève qui a des troubles d'apprentissage ou des difficultés d'attention a peut-être un petit avantage à certains moments, dépendamment, bien sûr, parce que l'écran maintient l'attention, on le sait, là. Alors, ça pourrait être aidant, mais il faut être très vigilant sur la façon de faire.
Et si
actuellement, on a beaucoup, si on va sur le site du ministère de l'Éducation, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'outils pour amener l'enseignant à travailler davantage dans une approche de formation à distance.
Et est-ce qu'il y a un impact sur les évaluations?
Les évaluations, il faudra voir là comment le... Je sais qu'actuellement, peut-être que les parents ne sont pas encore informés où ils le sont. Là. Le ministère a conclu qu'il n'y aurait pas 2-3 bulletins cette année, mais qu'il n'y en aurait que 2. Alors, pour justement permettre à tout le monde de s'ajuster puis s'adapter à ces nouvelles façons de faire.
Et j'imagine qu'il y a aussi un impact sur vos activités. À vous, normalement, à l'automne, il y avait un colloque.
Colloque pour les parents. Alors, on est avec notre réseau d'entraide puis nos cafés-rencontres qu'on veut intensifier puis qui sont virtuels, puis même s'ils sont en ligne directe avec notre spécialiste, pour l'instant, on comble un petit peu avec ça, mais on a une belle prévision pour les colloques. Là. On se dirige vers ça. Mais par ailleurs, notre congrès annuel qui était en ligne en juin dernier,
oui,
sera également en ligne en mars prochain, 24, 25 et 26 mars prochain, pour l'ensemble du personnel d'établissement, des organismes et les parents. L'an dernier, nous avons accueilli beaucoup, beaucoup de parents qui font l'école à la maison ou qui font l'école à la maison par intervalle de d'éclosion dans les établissements ou tout simplement parce que leur enfant se sent pas bien pour quelque temps sans avoir la COVID, là. Il doit rester à la maison. Les parents, de plus en plus, sont intéressés à savoir comment faire sur certains éléments en devenant pas des spécialistes de matière. Mmh.
C'est malheureusement tout le temps qu'on avait, mais ça fut très éclairant. Merci beaucoup, Mme Doiron, directrice de l'Institut des troubles d'apprentissage. Et on invite les gens à aller voir vos groupes de discussion.
Oui, oui, puis notre congrès et puis notre réseau d'entraide. Merci infiniment
de nous avoir
accueillis. Au revoir, bonne journée.